Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée dans nos archives.
Bonjour.
Aujourd'hui, on met un peu de côté, on va dire, les grandes études académiques.
Oui.
On va se pencher sur une source beaucoup plus intime, presque artisanale.
C'est le mot.
Il s'agit d'un extrait du bulletin numéro 62 du Cartoclub Aveyronnais. Ça date de janvier 2016. C'est vraiment une publication de passionnés pour des passionnés de cartes postales anciennes.
Et c'est ça qui fait toute sa richesse.
Exactement. Et grâce à eux, on va faire un véritable voyage dans le temps. Notre destination, c'est le village d'Estaing, en Aveyron.
Un lieu magnifique.
Le guide de ce voyage, c'est Jean-Pierre Dessolles, qui signe l'article principal. Et il faut aussi saluer, et c'est important, le travail de Guy Mazard.
Le rédacteur en chef, oui.
C'est lui qui a conçu toute la mise en page. Et pour ce genre de publication, la façon dont les images et le texte dialoguent, c'est absolument essentiel.
C'est même le cœur du projet. Ce bulletin nous propose une lecture d'Estaing à plusieurs niveaux. Il y a l'histoire monumentale, bien sûr.
Le château, on y vient.
Mais surtout, il y a la vie des gens, les traditions, les légendes. Et tout ça, ça nous est raconté à travers le prisme des cartes postales d'époque. Ce ne sont pas juste des illustrations.
Non.
Ce sont les sources principales. Des fragments de vie, figés dans le temps, qui servent vraiment de fil conducteur à tout le récit.
Alors, commençons par ce qui saute aux yeux quand on arrive à Estaing.
L'imposant château.
L'imposant château qui domine le village. L'article nous rappelle que la famille d'Estaing, ce n'est pas rien. Elle a laissé une empreinte profonde dans l'histoire de France. Jean-Pierre Dessolles cite quelques figures qui donnent un peu le vertige.
Ah oui, il y a du beau monde.
On a Tristan d'Estaing. Héros de la bataille de Bouvines en 1214, aux côtés de Philippe Auguste.
Rien que ça.
On fait un bond jusqu'au XVIe siècle avec François d'Estaing, qui devient évêque de Rodez, un grand bâtisseur. Et puis plus tard, Charles-Henri d'Estaing.
L'amiral.
Amiral de la flotte française. Et il a joué un rôle majeur en soutenant la guerre d'indépendance des États-Unis. C'est fou de penser que dans un si petit village, on trouve des échos de l'histoire médiévale et de la naissance des États-Unis.
Vous mettez le doigt sur un point essentiel. Ce château est une sorte de condensé de l'histoire de France. Mais ce qui est tout aussi fascinant, c'est que le bâtiment lui-même a eu une vie, aussi mouvementée que ses propriétaires.
C'est vrai.
La Révolution française passe par là, et en 1794, c'est la rupture.
Confisqué.
Le château est confisqué, vendu comme bien national. C'est le sort de beaucoup de grands domaines à l'époque. C'était un symbole de la fin d'un ordre ancien. Il aurait pu tomber en ruine.
Mais pas du tout.
Son histoire est pleine de rebondissements.
Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Il ne tombe pas en ruine, il se réinvente.
Complètement.
Radicalement même.
Entre 1836 et 1840, il est racheté par les sœurs de Saint-Joseph d'Estaing et elles en font un couvent et une école.
On peine à imaginer le changement d'atmosphère. Ah mais c'est ça, hein. On passe d'une forteresse médiévale, lieu de pouvoir, de guerre, à un lieu d'éducation, de prière, de vie communautaire.
C'est une transformation qui a probablement sauvé le bâtiment.
Sans doute. Mais la trajectoire ne s'arrête pas là. Plus près de nous, après le départ des religieuses, la commune le rachète en 2000.
Avant de le céder en 2005.
Oui, à la famille Giscard d'Estaing,
oui.
Qui descend de la famille d'origine par les femmes. Aujourd'hui d'ailleurs, il appartient à la fondation Valérie Giscard d'Estaing.
Et le but affiché, c'est de lui redonner son aspect d'origine pour en faire un lieu de souvenir. C'est une belle ambition, mais ça soulève une question vertigineuse.
Oui, la question que tout restaurateur du patrimoine se pose, de quel aspect d'origine parle-t-on ?
Exactement. L'aspect de la forteresse du XIIIe siècle, celui remanié à la Renaissance, ou est-ce qu'il faut effacer les presque deux siècles de présence des sœurs qui ont aussi façonné les lieux ?
Chaque époque a laissé son empreinte.
Sa propre vérité. Créer un lieu de souvenir, ça implique de faire des choix et donc, potentiellement, d'oublier certaines couches de mémoire pour en privilégier d'autres.
C'est un vrai dilemme. Mais un château, aussi imposant soit-il, n'est pas toute l'âme d'un village.
Loin de là.
Et l'article nous emmène très vite vers ce qui fait battre le cœur de la communauté. La vie spirituelle, les traditions.
Tout à fait.
Ça commence avec l'église paroissiale, dédiée à Saint Fleuret, un évêque qui serait mort à Estaing en 620. L'église abrite ses reliques dans une châsse magnifique.
Et l'histoire de cette châsse ?
Tout ce qu'ils avaient de précieux. Cette châsse, ce n'est donc pas seulement un trésor d'orfèvrerie.
Non, c'est un concentré de la foi et des sacrifices de toute une communauté.
Ça donne vraiment de la chair au récit.
Et ce qui est incroyable, c'est que cette ferveur collective, ce n'est pas qu'un souvenir pieux enfermé dans un livre. Elle est toujours vivante.
Ah oui, oui.
L'article décrit avec beaucoup de détails la procession de la Saint-Fleuret. Elle a lieu chaque premier dimanche de juillet. Il faut imaginer le spectacle.
Racontez-nous.
150 figurants en costume d'époque qui défilent dans les rues.
Il ne représente pas seulement des saints et des anges,
ah non,
mais aussi les grandes figures de la famille d'Estaing. C'est une sorte de théâtre historique et religieux à ciel ouvert.
C'est fantastique, ça.
Le passé n'est pas simplement commémoré, il est réincarné, il est joué par les habitants d'aujourd'hui.
Le lien n'est pas rompu.
Pas du tout. Le bulletin inclut d'ailleurs une photo de 2011, où l'on voit Valéry Giscard d'Estaing participant à la procession, en train de converser avec l'évêque de Rodez.
C'est une image très forte.
On y voit la grande histoire, celle du château, de la famille, qui se mêle sans heurte à la tradition populaire et religieuse.
Un autre point de convergence du village, c'est son pont gothique, construit vers 1490.
Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui, comme étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une statue de François d'Estaing, l'évêque bâtisseur, y a été érigée au XIXe siècle. Ce pont, c'est plus qu'un simple passage sur le Lot.
Il est devenu une icône, un symbole si puissant qu'il a inspiré un objet de la vie quotidienne, un bijou.
C'est vrai.
Un joaillier parisien du XIXe siècle a créé la croix du pont d'Estaing, qui est devenue un classique de la joaillerie aveyronnaise. C'est un processus fascinant.
On passe de l'architecture.
Exactement. Un élément d'architecture, un paysage, est distillé pour devenir un symbole portable. Un signe d'appartenance. C'est la transformation d'un lieu en identité.
Et en s'éloignant un peu de ces grands monuments, l'article nous fait découvrir des lieux plus secrets, des micro-récits.
Les chapelles.
Les chapelles. Et la plus romanesque, c'est sans conteste la chapelle d'Oldol.
En occitan, Dol, c'est le deuil, la douleur.
Et la légende rapportée est digne d'une tragédie de Shakespeare. Imaginez-le bien, une demoiselle du château aimée de deux jeunes seigneurs.
Le triangle amoureux classique.
L'un fou de jalousie sabote la passerelle que son rival devait emprunter pour un rendez-vous. Mais le soir du drame, la demoiselle est avec son bien-aimé sur cette passerelle.
Oh non!
Ils tombent tous les deux dans le Lot et se noient. La chapelle aurait été construite à l'endroit où l'on a retrouvé leur corps.
C'est terrible et poétique à la fois.
Complètement.
Et ce qui est intéressant, c'est le contraste entre cette légende, très romantique, et la fonction beaucoup plus pragmatique des autres chapelles.
C'est vrai.
L'article mentionne la chapelle de Louradou, Ouradou étant l'équivalent occitan d'oratoire. Elle servait d'étape aux processions des rogations, ses prières pour protéger les récoltes.
Très concret, là.
Très concret. Et une croyance populaire, très ancrée dans la réalité paysanne, voulait que les vibrations de sa cloche puissent disloquer les nuages de grêle.
On est loin du drame amoureux.
On est dans la peur très concrète de perdre le fruit d'une année de travail.
C'est un mélange de foi et de météorologie populaire.
C'est ça.
Il y a aussi la chapelle des pénitents bleus, une confrérie qui avait le monopole des enterrements. Ils parcouraient les rues en agitant une clochette pour annoncer les décès. Ambiance.
Assez sinistre, oui.
Aujourd'hui, cette chapelle a une nouvelle vie. Elle sert de refuge pour les pèlerins de Saint-Jacques. Je trouve la transformation magnifique.
C'est une très belle image.
D'un lieu qui marquait la fin du chemin, elle est devenue une halte pour ceux qui sont en chemin.
Ça montre une forme de résilience du sacré. Les fonctions évoluent, les confréries disparaissent, mais le lieu conserve sa vocation fondamentale d'abri, de spiritualité. Le fil n'est pas cassé, il est retissé différemment.
Et pour nous permettre de voir tout ça, de visualiser cet Estaing du passé, l'article met en avant un personnage qui est...
absolument central.
Albert Gimalac.
Albert Gimalac.
Ce n'est pas un photographe venu de Paris, c'est l'horloger du village d'Estaing.
C'est ça qui est génial.
Mais avec l'arrivée du tourisme, il a eu le nez creux. Il s'est diversifié, vendant des articles de pêche, de chasse, puis il s'est lancé dans la photographie en éditant ses propres cartes postales.
Et c'est là toute la valeur de ce témoignage visuel. Les cartes photos de Gimalac, qui datent des décennies autour de la Seconde Guerre mondiale, nous offrent un regard de l'intérieur.
C'est ça.
Ce n'est pas la vision d'un touriste qui cherche le cliché pittoresque. C'est le regard d'un habitant sur son propre environnement, sur les changements qu'il observe. Ces photos ne sont pas des natures mortes.
Non, elles vibrent de vie. L'article en décrit plusieurs qui donnent vraiment envie. Il y a une vue générale, prise depuis la jetée d'un moulin, qui montre le village blotti au pied du château, avec toutes les vignes en terrasse sur les coteaux.
On imagine le travail colossal que ça représentait.
Une autre carte, que j'adore, montre le pont pavoisé de drapeaux pour une fête. Il y a des lampions et sur le quai des pêcheurs à la ligne qui taquinent le goujon.
Indifférent à l'agitation.
Exactement. C'est une tranche de vie.
Oui, et ce qui renforce cette idée, c'est que Gimalac ne photographie pas seulement la tradition. Il capture aussi la modernité qui arrive.
Comment ça ?
Une de ses cartes montre des enfants en train de se baigner dans le Lot, près de la chaussée d'un ancien moulin. Une autre immortalise des estivants en canot sur la rivière.
Le début des vacances, en somme.
Précisément. Ce que ces images documentent, sans même que Gimalac en ait peut-être eu conscience, c'est un basculement sociologique majeur.
C'est-à-dire ?
On voit un village, jusque-là rythmé par l'agriculture, l'artisanat, la religion, qui se transforme en destination de loisirs. Le Lot n'est plus seulement une force motrice pour les moulins ou une ressource pour la pêche.
Il devient une plage, un terrain de jeu.
Voilà. Jimalak a saisi sur le vif la naissance d'Estaing en tant que lieu de vacances.
Alors, au final, que retenir de cette plongée dans ce bulletin de cartophile ? Pour moi, on découvre un lieu où cohabitent plusieurs histoires.
C'est tout à fait ça.
Il y a la grande histoire de France, incarnée par le château et sa lignée prestigieuse. Et juste à côté, il y a l'histoire plus intime.
Plus locale.
Celle des légendes, des traditions populaires vivaces comme la procession, et puis la vie simple des gens au bord de l'eau.
Et l'apport des cartes postales d'Albert Jimalak, il est fondamental. Elles sont le ciment entre ces différentes strates.
C'est une bonne image, le ciment.
Elles ancrent la longue durée de l'histoire dans le quotidien du XXe siècle. Elles nous rappellent que derrière les lures du château et de l'église, il y a une communauté qui vit, qui travaille, qui fête, qui se baigne.
C'est l'histoire vue à hauteur d'homme.
C'est ce qui la rend si touchante.
Et pour conclure, une pensée qui me vient en refermant cet article. D'un côté, on a des passionnés, les cartophiles, qui collectent et étudient ces petits cartons pour préserver une mémoire populaire.
Oui.
De l'autre, on a une fondation qui restaure un château pour en faire un lieu de souvenir. On sent partout cette même volonté de se souvenir.
C'est vrai.
La question qui se pose alors pour un village comme Estaing, classé, célébré, chargé d'histoire, c'est comment ne pas devenir un simple musée à ciel ouvert ?
C'est le défi de tous les lieux de patrimoine. Et la réponse se trouve peut-être justement dans des sources comme ce bulletin.
C'est-à-dire ?
C'est lorsque les habitants eux-mêmes, les collectionneurs de cartes, les figurants de la procession, les auteurs locaux comme Jean-Pierre Delsol, continuent de s'approprier et de raconter leur propre histoire, que le village reste vivant.
L'âme d'un lieu, au fond.
Elle n'est peut-être pas seulement dans les pierres, mais dans la chaîne ininterrompue des récits qu'on continue de se transmettre.